Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Corbu. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre antenne. Moi c'est Valentin, je suis avec Edison et on va vous accompagner tout au long de l'émission. Bonjour Edison.
Bonjour Valentin, au sommaire de notre émission d'info aujourd'hui, on vous propose un retour sur les événements de Paris du vendredi 13 novembre dernier, un regard sur les migrants en exil en France, un sujet sur la malbouffe, un reportage sur l'équipe de futsal du lycée et une enquête sur la musique au lycée. À cette occasion, nous vous dévoilerons les interviews exclusives du proviseur qui s'exprimera sur son goût pour la musique et du CPE qui encadre le club de musique au Corbusier. Enfin, nous terminerons l'émission avec l'humeur du jour signée Amran. Sans perdre de temps, tout de suite le Flash Info par Gabriel.
Bonjour, voici les titres marquants de ces dernières semaines. Bilan lourd, 130 morts et plus de 350 blessés dans les attentats qui ont touché plusieurs arrondissements de Paris. Trois kamikazes se font sauter près du Stade de France et trois autres sont morts lors de la prise d'otage du Bataclan. Toujours à la suite des événements du 13 novembre, une descente à Saint-Denis du Raid et de la BRI évite de peu de nouveaux attentats. Deux terroristes abattus et un membre du Raid blessé lors de l'assaut. Réaction du côté de l'Elysée. Le chef de l'État met l'accent sur la sécurité. L'état d'urgence est prolongé jusqu'en février 2016, mais côté festivités à Strasbourg, le marché de Noël est maintenu. Il a ouvert ses portes le 27 novembre et se tiendra jusqu'au 24 décembre. Plus petit et plus sécurisé, il conserve toujours son esprit chaleureux et une fréquentation correcte. Soyez rassurés, le sapin de Noël, le monstre de Noël, trône toujours place Kléber. D'ailleurs, les salariés d'Air France pourront peut-être le voir après leur procès. 3 mois de prison et 45 000 euros d'amende. Voilà ce que risquent 5 à 6 salariés d'Air France suite à la séquestration de deux cadres de la direction. Pour le moment, le procès est renvoyé au 27 mai. En parlant de compagnie aérienne, 224 victimes et aucun survivant lors du crash de l'Airbus russe en Égypte le mois dernier. En excellent état technique, selon les autorités, une attaque terroriste semble donc probable. Finançons sur une note sportive. Rugby, cataclysme chez les British. L'Angleterre n'a même pas passé les poules de sa propre Coupe du Monde. Le trophée a finalement été remporté par les All Blacks face à l'Australie. Football, l'équipe de France dans la tourmente. Valbuena ou Benzema, Deschamps va-t-il s'en sortir avec cette histoire salace de sextape? L'Euro 2016 s'annonce d'ores et déjà compliqué. En revanche, tout brille pour le Racing Club de Strasbourg. Il caracole en tête de son championnat, peut-être un prochain retour en Ligue 2.
Tout de suite, on passe sur un sujet plus délicat, les migrants. Sujet inévitable, voire incontournable, on les voit partout sur nos écrans, arriver en masse et désespérés.
Qui n'a pas au moins entendu parler des migrants ? Qui n'a pas à l'esprit ces images de réfugiés qui fuient les guerres ?
Impossible que vous n'ayez jamais évoqué avec un proche la question des Syriens, par exemple. Pour ce faire, une idée de la vie générale sur la question, Denis et Edison sont allés à la rencontre des gens aux abords du lycée et leur ont demandé ce qu'ils en pensaient.
Que pensez-vous des migrants qui arrivent en France ?
Bah, que je suis pour, parce que pour moi, ces migrants-là, ce sont des êtres humains comme nous, qui pourraient eux-mêmes, si on se mettait à leur place, ça nous ferait vraiment... C'est vraiment très touchant.
Bah, il faut qu'on les aide, à condition que ce ne soient pas des migrants économiques, mais des migrants qui sauvent leur peau.
Je pense qu'il y en a un peu trop qui viennent. Sinon, j'ai rien contre les immigrants, mais là, il y en a beaucoup.
Je sais pas quoi répondre, en fait.
Moi, je trouve qu'ils essayent de sauver leur vie, qu'ils sont dans des situations délicates, et donc ils veulent sauver leur vie.
Vous, de quelle manière aidez-vous un migrant qui arrive en France ?
Financièrement, bien sûr. Si j'aurais pu, je les aurais logés, mais que je préférerais les aider financièrement, et voilà.
J'ai pas trop réfléchi. Je sais que c'est dur, il faut les aider financièrement, il faut les intégrer, c'est beaucoup de travail. Moi-même, je ne sais pas comment je ferai.
Selon mes moyens, comme j'en ai très peu, franchement, je ne sais pas. Là, je ne sais pas quoi répondre.
Je lui ai sauvé sa vie. Il est un migrant. Alors, je crois que j'ai tout dit.
On voit que c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent. La France s'est engagée à accueillir 30 000 migrants qui fuient les conflits dans les deux prochaines années. La ville de Strasbourg se prépare d'ailleurs à les recevoir.
Mais une fois en France, que deviennent-ils ? Et que fait-on pour aider les personnes coincées à l'étranger, là-bas, dans un pays en guerre ?
Une équipe de journalistes est allée interviewer M. Koussaibi, président de l'association Alsace-Syrie. Il se bat pour la cause humanitaire syrienne et il a accepté de nous en dire plus au micro de Zakaria et de Younes.
Pouvez-vous rappeler dans quel but et quand avez-vous créé cette association ?
L'association Alsace-Syrie a été créée en 2012 suite aux événements en Syrie. Nous avons deux objectifs. Le premier axe, ce que j'appelle l'axe citoyen, c'est-à-dire organiser des manifestations culturelles, des manifestations politiques. Ici à Strasbourg, dernièrement, on a fait une manifestation contre l'intervention russe en Syrie. Et aussi, on a participé dernièrement à une lecture de poésie et des extraits de romans dédiés au peuple syrien, au café Savon d'Hélène. Pour ce qui concerne l'axe humanitaire, nous avons envoyé jusqu'à maintenant 18 semi-remorques de vêtements, de matériel médicalisé, de médicaments. Et maintenant, on est en train de préparer notre 19e semi-remorque, essentiellement de fournitures scolaires. Il y a 1 million d'enfants syriens qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'école. Et nous avons envoyé en Syrie, dans plusieurs endroits, au nord de la Syrie, sans distinguer les régions. Donc, il y avait des gens qui étaient d'origine chrétienne ou bien kurde, aux Arabes, nous, on ne distingue pas les gens. Nous, on aide la population qui a besoin, quelle que soit sa religion, son ethnie. Et nous sommes allés nous-mêmes, une fois, près de Idlib, à Benish, et dans cette région, et nous avons mis en place des cours pour apprendre, aider les enfants à apprendre à lire et à écrire. Et aussi aider à l'hôpital de fortune. Et notre objectif de notre semi-remorque, c'est d'aller un peu plus loin au sud, dans la zone rurale de Hama. Et nous travaillons en collaboration avec des associations sur place et avec les conseils municipaux en place. Pour les réfugiés ici à Strasbourg, nous avons, depuis un laps de temps, mis dans notre page Facebook Alsace-Syrie des annonces sur l'arrivée des familles syriennes. Il y a un élan de générosité de la part de la population à Strasbourg qui ont accueilli plusieurs familles. Je vous donne un autre exemple qu'on a aidé massivement tous les réfugiés. À l'occasion de fêtes de sacrifices, nous avons eu l'occasion d'avoir beaucoup de viande et nous avons envoyé un panier de moutons, de viande, à chaque famille qui vient d'arriver ici à Strasbourg. Et bien entendu, on a des membres de notre association qui aident dans les démarches administratives. L'Université de Strasbourg nous épaule et a pris en charge 50 étudiants pour apprendre le français ici à gratuitement. Normalement, un étudiant pour faire des études de français, FLE, français langue étrangère, doit payer 2 400 €. Et l'université a donné une bourse pour tous les réfugiés syriens, des étudiants.
Je vais juste revenir sur les semi-remorques qui sont envoyés en Syrie. Comment faites-vous pour les envoyer
Pour envoyer un semi-remorque, ça coûte à peu près, pour qu'il arrive jusqu'aux frontières syriennes, entre 4 200 à 5 000 €. Une fois aussi, la mairie de Strasbourg nous a subventionné un convoi pour la Syrie. Cela dit, nous travaillons avec des associations sur place et aussi avec des conseils municipaux pour qu'ils prennent en charge les marchandises qui arrivent en Syrie. On travaille avec l'entreprise qui achemine le semi-remorque jusqu'à Mersin par la mer et après de Mersin aux frontières syriennes en Turquie.
Et pour les réfugiés syriens qui sont en France, comment faites-vous pour les rencontrer, tout ça ?
Vous savez, il y a le système D et le système téléphone arabe. Tout le monde maintenant sait qu'il y a la situation Asie-Syrie. Et heureusement, nous avons des jeunes qui connaissent ces gens. Ou bien, dès qu'ils arrivent, ils savent qu'il y aura une famille ou deux familles ou trois familles qui arrivent. Et ils prennent en charge et pour le logement et pour les démarches administratives.
Est-ce que vous êtes en partenariat avec des autres associations à Strasbourg ?
Nous sommes en partenariat avec tous ceux qui veulent nous aider, des mosquées, des églises qui nous aident.
Et selon vous, comment on peut régler le conflit syrien ?
C'est-à-dire, nous, en tant que Syriens, nous ne sommes ni pour Daesh, ni pour le régime syrien. Notre association n'est pas affiliée, ou n'est pas attachée, ou n'est pas sous l'ordre de quiconque. Nous, on considère que le régime syrien est un régime sanguinaire. Il est temps qu'il parte. Nous espérons que le peuple syrien ait la démocratie. Le peuple syrien, il veut être un peuple simple. Il veut être considéré comme un peuple normal. Est-ce que c'est trop d'avoir la démocratie, la liberté pour un peuple? Ce peuple aspire à la démocratie, à la liberté. Nous sommes contre l'extrémisme. Nous sommes pour un État où tout le monde vit ensemble, les chrétiens, les musulmans, les chiites, les sunnites, les kurdes, les arabes. Donc pour nous, la base de la vie politique, c'est la citoyenneté. être citoyen. Il est temps que cette guerre arrête. Il y a presque un demi-million de morts en Syrie. On a détruit plus que 60% du pays. Il est temps que cette guerre s'arrête. Il est temps que les dictatures s'en aillent.
Comme le rappelle M. Koussaibi, beaucoup de jeunes Syriens migrent vers l'Europe pour y trouver un meilleur avenir. Mais ce ne sont pas les seuls.
Au lycée Le Corbusier, justement, des migrants de toutes origines participent au programme MOAF. Ce module d'orientation et d'apprentissage du français a pour objectif d'enseigner le français à ces jeunes venus parfois de très loin.
Pour en savoir plus, Denis et Ludovic sont allés interroger Mme Simon, enseignante au MOAF.
C'est-à-dire que c'est un programme qui s'adresse à des jeunes migrants entre 16 et 18 ans et qui leur propose de construire un projet professionnel et avant tout d'apprendre le français pour pouvoir intégrer une formation diplômante, souvent un CAP, mais parfois un bac professionnel. Il s'agit en fait de jeunes qui viennent de pays souvent en conflit, en guerre, en situation économique très difficile, et ces jeunes migrants sont pour leur grande majorité sans famille, tout seuls. Donc ce sont des jeunes mineurs isolés et c'est une grande chance pour eux d'être dans ce programme puisque, comme vous le savez, la scolarité en France n'est pas obligatoire au-delà de 16 ans. Donc pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, il n'y a pas d'option possible obligatoire dans le système éducatif français.
Mais qui sont-ils ?
Après cette première approche, et grâce aux explications de Madame Simon, partant à la rencontre de ces jeunes qui viennent tout juste d'arriver en France, Atikoula, Kaman et Hamid ont répondu à nos questions.
Bonjour Atikoula.
Bonjour monsieur.
De quelle origine êtes-vous ?
Je viens d'Afghanistan.
Quelles sont les causes de votre migration vers l'Europe ?
À cause de la guerre.
Les conditions ont-elles été difficiles pour arriver en France ?
Oui, c'est très difficile. J'ai marché 2 mois, comme ça, 15 jours.
Avez-vous de la famille à l'étranger ?
Oui, ma famille habite en Afghanistan.
Donc vous vivez seul en France ?
Oui, tout seul ici en France.
Pensez-vous retourner en Afghanistan ?
Pas encore, mais peut-être comme je comprends que une guerre finie.
Bonjour Kamran.
Bonjour.
De quelle origine êtes-vous ?
Je suis bangladeshi.
Avez-vous de la famille au Bangladesh ?
Mes parents habitaient au Bangladesh. J'habite ici toute seule. Et mon petit frère habite au Bangladesh avec mes parents.
Si vous retournez au Bangladesh ?
Oui, je voudrais aller au Bangladesh pour les vacances. Je voudrais rester dans la France.
Bonjour Omid.
Bonjour.
De quelle origine êtes-vous ?
D'Irak.
Quelles sont les causes de votre migration vers l'Europe ?
Parce qu'il y a la guerre dans mon pays, je ne peux pas rester là.
Les conditions ont-elles été difficiles pour arriver en France ?
Non, on a arrivé en avion. L'ambassade française en Irak nous aidait pour arriver en France.
Avez-vous de la famille en Irak ?
Non, ma famille c'est ici. J'ai une sœur ici et 4 frères avec mes parents et j'habite à Schiltigheim.
Pensez-vous retourner en Irak ?
Non, pas encore. Je ne visite pas encore l'Irak. Mais je ne sais pas après quelques années.
Les élèves du MOAF sont courageux et pleins d'enthousiasme à l'idée d'apprendre notre langue. Le livre des MOAF se ferme sur ce dernier témoignage très instructif qui donne envie d'aller davantage à leur rencontre.
On ouvre une nouvelle page totalement différente puisque dans la suite de notre émission, on vous propose un reportage sur l'obésité en Alsace et la question de la malbouffe.
Selon l'ARS, l'Agence Régionale de Santé d'Alsace, notre région se situe en 2e position du classement d'obésité en France.
Pas de quoi être rassuré.
Selon les chiffres de 2006, un enfant sur 6 de 5 à 6 ans était déjà en surpoids et 4% étaient obèses. En comparaison, le phénomène d'obésité est encore plus important chez l'adulte.
Robin, Mathieu et Jérôme ont mené l'enquête et sont notamment penchés sur les méfaits de ce qu'on appelle la malbouffe.
Écoutons d'abord l'avis de 2 personnes interrogées sur ce qu'elles pensent des fast-foods. Celui de Madame Machi, âgée de 73 ans, et celui de Mathias, 15 ans.
Mangez-vous beaucoup dans les fast-foods ?
Non, parce que c'est pas dans notre génération. On n'a pas l'habitude et comme on habite la campagne, on a un jardin, on a les légumes bio. Je crois une ou deux fois qu'on y était, ça c'était une exception.
Croyez-vous que cela est bon pour le corps humain ?
Pense pas trop parce que y a pas beaucoup de légumes, des fruits.
Maintenant, nous allons entendre une autre version. Interrogeons Monsieur Mathias, qui a 15 ans. Croyez-vous que cela est bon pour le corps humain ?
Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de calories dans ce qu'il propose.
Pourquoi venez-vous au fast-food ?
Ben, c'est quand j'ai pas le temps de préparer à manger chez moi, donc je vais au McDo.
Deux générations et deux visions très différentes. On voit donc que les avis sont partagés.
Une alternative au fast-food ?
Vous pouvez évidemment compter sur la cantine pour vous restaurer.
Mais qu'y a-t-il exactement dans notre assiette à la cantine du lycée ? Comment sont faits les menus ?
Tout de suite, un sujet de Jérôme et Robin qui ont recueilli les témoignages et les explications d'une des responsables de la cantine.
Je vais avoir mes menus en fait en suivant le plan nutrition santé national. Donc on a certaines choses à respecter au niveau de l'équilibre des repas. Il ne faut pas que ce soit tous les jours la même chose.
Qu'est-ce qu'un repas équilibré ?
Un repas équilibré, c'est important de respecter certaines choses, qui est toujours un fruit ou un légume qui est cru, une protéine au repas, un féculent et un légume. Et en fonction des jours, on a toujours un produit laitier. Mais certains jours dans la semaine, on a de la pâtisserie. Sinon, régulièrement, on a des fruits crus à proposer en dessert. Voilà.
Comment achetez-vous vos matières premières ?
Alors, on a différents fournisseurs. On essaye de travailler avec des fournisseurs et des producteurs locaux. Donc, vu la quantité qu'on a ici, alors il est vrai qu'on travaille autant avec des produits frais qu'avec de temps en temps du surgelé pour nous dépanner, parce que sur 1200 repas par jour, ce serait compliqué de travailler qu'avec du frais. Au maximum, on essaye de faire les entrées avec des produits locaux, les desserts pareil. On manage un petit peu sur le tout. On fait un mix de produits frais, produits surges, pour proposer des menus équilibrés.
Que pensez-vous de la lutte contre l'obésité ?
C'est important de mettre un accent dessus. C'est vrai que les jeunes mangent de moins en moins bien. Il faut vraiment essayer de les habituer à manger des légumes et des fruits tous les jours. C'est là-dessus qu'on met le plus d'accent en ce moment à la cantine. Et on limite les produits gras, les produits trop sucrés et pas trop de pâtisserie tous les jours.
En fait, fast-food ou cantine, c'est à vous de choisir. Mais pour en faire un bon choix, autant savoir ce qu'en pensent réellement les experts.
Découvrons donc ensemble l'avis de Madame Dubreuil, l'infirmière du Corbu.
Que conseilleriez-vous à un jeune en surpoids ?
Alors, un jeune en surpoids qui souhaiterait perdre du poids, donc, je lui conseillerais déjà de ne pas essayer de faire ça forcément tout seul et de se faire aider par son médecin traitant, déjà, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, on a la chance d'avoir sur Strasbourg des associations, et notamment Redom Jeune, qui est une association qui organise des activités liées à la perte de poids, c'est-à-dire aussi bien des activités physiques que des activités liées à la rééducation au niveau alimentaire. Mais commencer par son médecin traitant, ça me paraît évident.
Avez-vous déjà vu le film Super Size Me, le film où un homme mange du fast-food à tous les repas pour faire des tests ?
J'en ai beaucoup entendu parler. Manger du fast-food à tous les repas, je pense que c'est une grosse erreur au niveau alimentaire. Pas parce que je pense que le fast-food, c'est forcément mauvais, parce que c'est bon. Moi, j'aime bien manger au fast-food, mais de temps en temps. Par contre, la grosse erreur, c'est au niveau des végétaux, c'est-à-dire qu'il manque énormément de légumes et donc forcément de vitamines. Donc manger à tous les repas du fast-food, c'est risqué d'être carencé en vitamines, en fibres et en tout un tas de choses comme ça qui sont essentielles pour l'organisme.
Pensez-vous que le sport est obligatoire pour lutter contre l'obésité ?
Je pense que le sport n'est pas forcément obligatoire pour lutter contre l'obésité, mais par contre, le sport permet de se maintenir en bonne santé. C'est-à-dire qu'il permet de maintenir les muscles, le cœur, tous ces organes-là, permet de les maintenir en action. Et voilà, je pense que pour lutter contre l'obésité, effectivement, lutter contre la sédentarité est nécessaire. Après, faire du sport, oui, mais à son rythme et...
Bien sûr, le meilleur moyen de lutter contre ce problème, c'est le sport.
Vous connaissez tous les pubs et le site internet de mangerbouger.fr ?
Les conseils donnés tournent en effet autour d'une bonne nutrition, mais la solution au quotidien, c'est de faire du sport.
On vous propose donc de suivre Libas et ses camarades lors d'une séance de sport un peu particulière avec l'équipe de futsal du lycée.
Ils ont interrogé Monsieur Tezevich pour en savoir plus sur l'ENSS au lycée et les différentes activités que lui et ses collègues proposent toute l'année au lycée.
Avez-vous déjà fait du sport durant votre jeunesse ? Si oui, lesquels ?
Oui, j'ai notamment fait du football et du tennis, les deux en compétition.
Qu'est-ce que l'UNSS en général ?
Alors l'UNSS, c'est l'Union Nationale du Sport Scolaire. C'est ce qui permet aux élèves de pratiquer du sport comme ils le désirent, en dehors des cours, des horaires où ils ont école. Et on peut le faire, il y a trois pôles au niveau de l'UNSS, soit le pôle compétition, ça c'est les rencontres contre d'autres lycées, des rencontres amicales ou officielles. Soit le pôle animation, on vient juste pour pratiquer en loisir, hein, sans contrainte et sans le stress de la compétition. Et le pôle jeune officiel, qui est le pôle de formation pour les arbitres.
Quel sport y a-t-il en UNSS ?
Alors, il y a tout ce qui est possible d'imaginer, tout ce qui existe au niveau fédéral. Hein, et au lycée, chez nous, on dénombre une bonne dizaine d'activités. Hein, ça va du futsal, cross, à l'athlétisme, au tir à l'arc, à la salsa. Et j'en passe et j'en oublie, là, j'ai pas la liste, mais on a une dizaine ou une douzaine d'activités qui sont proposées.
Quels sont les sports en UNSS où vous avez eu le plus de victoires et de trophées durant ces dernières années ?
Alors, c'est le futsal, où nous avons fait deux titres de champion de France, puisque c'est moi qui m'en suis occupé, je le sais bien. Donc, c'était en 2011 et en 2012, et on a fait un podium en 2013, une troisième place. Et aussi la boxe et la lutte, avec mon collègue M. Maillefer, où là, ils ont fait aussi deux fois champion de France et une fois médaille d'argent.
Quel cours du NSS entraînez-vous ?
Moi, je m'occupe essentiellement du futsal, à travers la section aussi, surtout pour les rencontres. Et parce que je m'occupe aussi de l'UNSS au lycée Jean Monnet, hein, où il y a aussi une section futsal. Mais je m'occupe aussi ici du basket le jeudi entre midi et 1h pour les garçons et pour les filles.
Comment organisez-vous vos entraînements de football ?
Alors les entraînements de futsal plutôt, hein, parce que c'est vraiment un sport à part entière. Bah, il y a toujours un échauffement. Après, il y a un thème technique, hein, avec notamment contrôle, passe, semelle. Après, un thème technico-tactique. Souvent qui est lié à la maîtrise technique mais aussi au déplacement, hein, parce que le futsal il est fait comme le basket de beaucoup de déplacements et on finit en général par du jeu, soit du jeu libre, soit du jeu à thème.
Aujourd'hui il y a une grande progression du nombre de femmes dans les sports de milieu masculin. Qu'en pensez-vous ?
Ah ben moi, je suis tout à fait pour. Hein. On le voit notamment au niveau du football. Hein. C'est pourquoi au Jean Monnet, on s'est même engagé maintenant avec les filles. Hein. Il n'y avait jamais eu de futsal avant pour les filles. Et on a pour la première fois engagé une équipe de filles. Puis on aimerait bien au Corbusier aussi, parce qu'on sait qu'il y en a qui aiment. Et voilà, on essaie de proposer depuis quelques années plus d'activités pour les filles. Ben bon, même au basket, j'ai régulièrement 3 ou 4 filles qui viennent.
Comme on a pu l'entendre, l'UNSS offre la possibilité à chacun garçon ou fille de s'inscrire à une activité sportive. Il n'y a que l'embarras du choix.
Après l'effort, place au réconfort avec le club de musique dirigé par M. Hamann et soutenu par M. Freund.
Respectivement guitariste et batteur, CPE et proviseur, ils ont tous les deux accepté de parler au micro de Emre, Karim et Valentin, qui sont partis sur les traces des talents musicaux du lycée.
Nous sommes ici pour interviewer sur le domaine de la musique. Nous sommes entourés de dossiers, de jolis tableaux.
Donc d'abord, depuis quand avez-vous autorisé le club de musique au lycée Le Corbusier ?
Le club de musique existe depuis longtemps, bien avant mon arrivée, me semble-t-il. En tout cas, il y a toujours eu la volonté du CPE de M. Hamann de développer à l'internat ce type de pratique musicale.
Vous l'avez autorisé, mais maintenant, pourquoi vouloir le continuer ?
Parce que je voudrais que dans cet établissement, on ne soit pas seulement un élève studieux, travailleur, mais que l'établissement soit aussi un lieu de vie où les talents peuvent s'exprimer.
Trouvez-vous qu'il y a des élèves qui sont un peu plus au-dessus que certains autres ?
Alors effectivement, j'ai joué avec eux puisque je suis moi-même musicien. En tout cas, j'ai repris des activités musicales que j'avais un peu perdues pendant plusieurs années. Et donc, je les ai accompagnés au Zénith où ils ont pu se produire dans le cadre d'une opération menée par la Fédération du bâtiment. Ce que j'ai pu constater, c'est des talents vraiment extrêmement forts. Et notamment un des jeunes qui faisait du slam avec un talent assez exceptionnel. On a aussi une jeune fille qui est partie, qui a été signée par une grosse major universelle en l'occurrence, et qui fait maintenant une carrière au niveau national. C'est vrai que ces jeunes ne sont pas tous au même niveau. Certains démarrent la musique, d'autres sont déjà très avancés.
Vous aviez dit être musicien. Vous êtes bien batteur, c'est ça ?
Plus jeune, quand j'avais votre âge, j'étais effectivement un musicien très engagé. J'ai appris, mes parents, quand j'étais plus jeune, m'ont fait un petit peu de piano et surtout de la guitare, mais j'avais toujours envie de faire de la batterie. Et c'est effectivement la batterie qui a été mon instrument principal, que j'ai travaillé donc beaucoup entre 17 ans et 25 ans. Et j'en ai fait une carrière musicale. D'ailleurs, j'ai arrêté mon travail. J'étais un jeune instituteur à l'époque et j'ai arrêté pendant 2 ans pour essayer d'en vivre. Bon, ça, c'était dans les années 85-90, mais c'était relativement difficile d'en vivre. Donc finalement, j'ai abandonné cette idée de devenir un musicien professionnel. Mais c'est vrai que j'ai connu de nombreuses scènes quand j'avais votre âge, j'ai joué beaucoup, j'ai enregistré aussi des disques. C'est une époque où c'était plus facile d'être musicien, il y avait moins de musiciens, Internet n'existait pas.
Pour
pourquoi pas un autre instrument?
La batterie, je sais pas, j'ai été attiré par cet instrument qui est très physique, mais en même temps très technique. On développe une indépendance de tous les membres, hein, des deux pieds et des deux mains doivent pouvoir travailler quasiment de manière autonome. Et donc c'est un instrument qui me plaisait beaucoup plus jeune parce qu'il est très physique. Dans la réalité, un bon batteur n'a pas besoin d'être forcément quelqu'un de musclé. Hein. C'est surtout dans la souplesse et dans la coordination que les efforts doivent être faits, et moins dans la force physique.
Et vous avez été compositeur étant jeune?
Alors, j'ai jamais composé réellement de la musique. Par contre, j'ai été auteur de paroles pour un ami à moi qui composait. Alors, par contre, vous avez là dans mon bureau, il y a effectivement des tableaux, mais il y a aussi un tableau que vous voyez là, contre le mur, où on me voit ici avec un faux cigare dans la bouche à côté de mes deux camarades, et je m'adresse à un ministre de la culture à l'époque qui s'appelait Jack Lang, et nous étions un petit groupe de rock dans les années donc 80 qui s'appelait Loch Ness, et on voulait aller au Midem à Cannes. Le Midem à Cannes, c'est le lieu où les producteurs du monde entier se retrouvent, c'est le salon des producteurs de musique, et donc on s'était dit on va essayer de trouver un producteur à Cannes pour devenir riche et célèbre, hein, c'était notre volonté à l'époque, et on avait accroché donc une pièce de 10 centimes à des badges que vous voyez là. Sur ce badge c'était écrit j'ai le dernier rond de Loch Ness, et on offrait à toutes les stars du Midem ce badge en leur demandant de faire la promotion de ce petit groupe de rock alsacien qui cherchait un producteur. Alors des stars que vous connaissez peut-être pas, mais qui à l'époque étaient très connues. Daniel Balavoine, Yves Mourouzi qui présentait le journal, Daniel Guichard, les Bananarama, enfin. Donc ça c'est une belle histoire. On a trouvé effectivement un producteur, mais on n'est jamais devenu riche et célèbre.
Lorsque vous étiez batteur, vous jouiez quel style de musique plutôt?
Alors au début c'était beaucoup du rock ou de la pop, mais j'ai fait aussi du jazz, de la country et puis de la variété.
Vos enfants, ils jouent d'un instrument eux aussi ou ils sont plus sportifs?
Alors j'ai deux garçons, enfin qui sont maintenant des grands garçons, l'un a 25 ans, l'autre a 22 ans. Alors le plus jeune n'a jamais fait de musique et ça le branche pas trop. Le plus âgé, lui par contre, c'est un excellent pianiste, on l'a mis au piano très tôt, mais j'ai fait sans doute une erreur, c'est de le pousser un petit peu trop au piano, et donc il l'a vécu comme une pression, et du coup il n'a pas conservé cette passion-là pour l'instant. Il a joué pendant longtemps, on va dire jusqu'à l'adolescence. Puis après, un peu par opposition avec son père, il a voulu faire autre chose. Et lui, c'est un passionné de foot et de sport. Et donc, c'est davantage dirigé vers cette passion-là. Mais bon, après, on a toujours envie de projeter sur nos enfants les rêves que nous avions. Et c'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose. D'ailleurs, ce pan de ma vie-là, ils ne la connaissent pas trop. Ils savent que je faisais de la musique. Maintenant, ils me voient reprendre et me réinvestir dans un instrument. Mais ils voient ça d'un peu plus loin. D'ailleurs, ils n'habitent plus à la maison. Tous les deux, donc...
Et les jeunes d'aujourd'hui, vous pensez qu'ils écoutent principalement quel style de musique?
C'est très varié. On a cette musique anglo-saxonne qui marche toujours très fort. On a aussi beaucoup de jeunes qui écoutent de la variété française. On a aussi quelques jeunes qui écoutent du jazz. C'est un petit peu moins fréquent, mais moi j'aime bien tout ce qui est rap et slam, par exemple, alors que c'est pas de ma génération. C'est de la musique créative, intéressante, très rythmée. Mais je pense qu'il y a autant de goût que de style. Et j'aime pas la musique agressive, donc j'aime pas quand les paroles sont agressives et qu'on déverse... la haine sur un morceau de musique, ça me paraît pas très intéressant. La musique, c'est fait pour rêver. Il peut y avoir de l'insolence dans la musique, ou de la révolte, bien sûr. La musique, c'est un art qui doit donc permettre d'exprimer des émotions.
Si M. Freund est un acteur actif du groupe de musique du lycée, M. Hamann tire quant à lui les cordes du club, puisqu'il gère et l'anime au quotidien.
Est-ce que vous jouez d'un instrument et vous êtes compositeur aussi?
Oui, alors effectivement, je joue d'un instrument, de la guitare, mais essentiellement pour m'accompagner, parce que je suis compositeur à mes heures, mais surtout interprète de chanteurs connus, voilà.
Depuis quand jouez-vous d'un instrument?
Depuis l'âge de 18 ans, depuis que j'encadrais des colonies de vacances, et pour séduire les monitrices, prendre son instrument, voyez-vous.
Quel style de musique jouez-vous principalement?
Du folk, la chanson française.
Aujourd'hui, vous prenez encore des cours ou vous en donnez particulièrement?
Non, autodidacte.
Vous aimez le style qu'écoutent les jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, dans le disque que je viens de vous donner, vous verrez qu'il y a notamment un morceau de slam. Nous avions un élève slammeur qui a fait de très très belles choses, qui composait ses propres chansons, et que ce soit le slam, le rap, la musique n'a pas de frontières.
Trouvez-vous qu'il y avait dans ce club certains élèves qui étaient un peu meilleurs que d'autres?
Alors, il y a évidemment des gens qui ont du talent, peut-être certains plus que d'autres, mais la force un peu de ce groupe que nous avions à l'interne l'année dernière, qui a fait ce disque, c'est que rien qu'au niveau des chœurs, les voix se sont mises en harmonie pour mettre en valeur les chansons interprétées. Alors dans le lot, une voix plus belle que les autres.
Pensez-vous qu'elle pourrait aller loin dans la musique, devenir une chanteuse célèbre ou rester un simple interprète?
Oui, alors il y a une élève qui a un disque en solo chez Universal, que vous pouvez trouver sur Deezer d'ailleurs. Hein. Elle a fait la première partie de N Corpora au Zénith de Nantes.
Hormis le CD de musique que vous nous avez donné avant, faites-vous des concerts, restez plus dans le domaine des CD?
Concerts, c'est devant un parterre de copains, copines, d'amis, mais pas plus, je me suis jamais produit. Non, moi je suis un pur amateur.
Et avec le club de musique?
Avec le club de musique, si vous mettez sur le site, encore une fois que je vous ai dit, du CDI, vous me verrez chanter, effectivement.
Y a-t-il des membres du club de musique qui sont externes ou seulement des internes?
Effectivement, à 90% c'était des internes, mais il y avait aussi des élèves du lycée Gutenberg. Club musique, nous avons accueilli deux guitaristes du lycée Gutenberg et une chanteuse.
Vous avez beaucoup de demandes, est-ce que vous en refusez?
Non, la porte est ouverte à tout le monde, on ne refuse personne, c'est une dizaine de personnes.
Que j'arrachais ma meilleure plume, et même s'ils sont brillants comme l'écume, je le reconnaîtrai toujours dans la brume. Par l'amitié bas de l'air, on se demande si c'est réel, et puis on se barre toucher le ciel, et les limites ne sont que rêves. Je les imite, ils me donnent de l'inspiration, j'accepterai jamais par erreur une de leurs rêves.
When you only need the light when it's letting go, only miss the sun when it starts to snow, only know you love it when you let it go. Only know you'll be night when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart.
On en sait plus à présent sur le club de musique du lycée et vous avez pu entendre quelques extraits de leurs chansons enregistrées l'an dernier au studio Downtown à Strasbourg. Quel talent!
En tout cas, comme aurait pu le dire Monsieur Hamann, la musique adoucit les mœurs. Mais saura-t-elle également agir sur l'humeur d'Amran? Car que serait notre émission sans l'humeur du jour d'Amran?
Comme chacun de nous, il n'a pas échappé aux tristes événements qui ont touché Paris et toute la France avec elle.
Lui, qui pensait vous parler ballon ovale, rugby et Coupe du Monde, finalement, il s'est ravisé et a changé de sujet. Amran a donc complètement réécrit son billet rien que pour vous. Il vous livre aujourd'hui son ressenti suite aux attentats du 13 novembre dernier.
Mon cher Amran, à vous la parole.
Bonjour à tous, je vous remercie de me donner l'occasion de vous faire partager mon humeur aujourd'hui sur l'antenne de Radio Corbu. Comme vous le savez tous, une suite d'événements tragiques a touché la France et le monde entier ces derniers jours. Résultat, eh bien aujourd'hui, dès que l'on entend parler d'islam, on entend tout de suite les mots terrorisme, djihadisme, violence, attentat, bombe, barbu, kamikaze, burqa, migrant. Non, non et non, musulman ne rime pas avec terroriste ou djihadiste. En fait, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à l'origine, le mot djihad signifie « effort dans la vie de tous les jours » pour travailler, éduquer ses enfants, réussir à l'école et dans la société, aider les autres, maîtriser ses colères. Vous voyez, cela n'a absolument rien à voir avec l'islamisme ou l'intégrisme. D'ailleurs, avez-vous remarqué que le terrorisme n'a ni couleur de peau ni religion particulière? Dans les attentats de Paris, on comptait des victimes de toutes les origines, de toutes les religions et de tous les âges. il y avait des Français, des Allemands, des Américains. Certains étaient chrétiens, d'autres musulmans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui j'ai envie de dire cela. Moi, j'ai aimé voir la France soudée et unie, tous derrière les mêmes valeurs et le même drapeau. Moi, j'ai aimé tous ces Français qui ont su faire une minute de silence sans faire d'amalgame bête et stupide. Moi, j'ai aimé le soutien de tous les pays du monde, de New York à Istanbul, de Moscou à Dakar, de Pékin à Tunis. Ce soutien, cette union, cette solidarité, c'est notre force. Le meilleur moyen pour lutter contre ces lâches et leurs bêtises, c'est de continuer à vivre, à sortir, à s'amuser, à aller boire un café sur une terrasse, d'aller voir des concerts au Zénith, des matchs à la Méno ou même d'aller flâner au marché de Noël. D'ailleurs, je vous laisse car je m'y rends de ce pas.
Notre émission touche à sa fin. Nous sommes ravis d'avoir pu partager notre regard sur l'actualité avec vous. On espère que tous nos sujets, graves ou légers, des attentats aux migrants, de l'obésité à la musique, auront su vous apporter un regard différent.
Les deux PLC vous remercient d'avoir écouté Radio Corbu et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.